Pour l'Halloween, Boulevard 102.1 vous prépare une programmation des plus effrayantes. DPJ, TGV, Troisième Lien, Loup, Garou.
J'ai sorti la grande voile, j'ai glissé sous le vent.
Et pire encore, les élections.
En voulez-vous des érections? Combien ça coûte une érection? Êtes-vous tanné d'avoir des érections à répétition?
Vous n'êtes pas prêt. Aujourd'hui seulement, à Boulevard, vous pourriez sombrer dans la folie.
Boulevard 102.1. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes ce soir, puisque j'accueille une nouvelle collaboratrice. Elle se nomme Mélanie Raté-Bisaillon. C'est une fille de Québec qui a fait une partie de sa vie à Montréal, puis qui décide de revenir tranquillement mais sûrement vers sa petite ville natale. Salut Mélanie.
Salut.
Très content de t'accueillir. Les gens qui vont voir probablement ta photo sur les réseaux sociaux lorsque tu seras annoncé sur les ondes de Boulevard vont dire « Coudon, je l'ai vu passer quelque part, cette Mélanie-là. » Mais Mélanie Raté-Bisaillon, c'est une collaboratrice aussi du réseau Cogeco dans d'autres villes. Puis là, maintenant, tu vas être à Québec avec la gang de Boulevard, mais tu es aussi une artiste.
Une artiste. Une grande artiste. Moi, je fais des tartes.
Tu fais des tartes. On t'a connue comme chanteuse?
Oui, ouais. J'ai fait naître mes loups il y a bientôt 10 ans.
OK.
Et la petite ratée pendant la période de confinement.
Pendant la période de confinement, tu as mis la petite ratée. Ça, c'était pour les personnes un peu plus âgées, les personnes d'expérience.
Ben oui, les grands-parents. Ben oui, la petite ratée en visite chez les grands-parents. Je fais la tournée des résidences pour aînés, les CHSLD, puis je me promène, je leur chante des chansons d'antan, puis je raconte l'histoire d'amour de mes grands-parents qui m'ont vu grandir, qui m'ont accompagné dans ce chemin de...
OK. Mais pour eux, est-ce qu'ils sont toujours en vie, tes grands-parents?
Ils sont au ciel maintenant.
Ils sont au ciel. Donc, ils n'auront pas vu cet hommage-là que tu leur fais.
Mais non, ils sont tout le temps là.
Ah, c'est ça. Ils sont tout le temps avec toi. Oui, on en parlera peut-être tantôt. Mais, OK. Puis ça, c'est des personnages que tu crées pour pouvoir diffuser les chansons?
Je dirais que c'est plus des versions de moi.
Oui.
Oui, c'est ça. Donc, j'assume mes archétypes de façon plus approfondie. Donc, avec Melou, la petite fille, l'innocente, mais tu sais, la boule d'énergie qui ressent ses émotions de façon plus intense, qui remonte son capuchon pour se calmer les nerfs, puis qui donne quand même un exemple assez adéquat pour les enfants. Là. Ne vous en faites pas, là, je les scrape pas.
Oui, puis dans quel objectif tu avais créé Melou? Pourquoi tu étais rendue à créer Melou?
Ben,
pourquoi on n'a pas vu, je sais pas, moi je te pose comme question, pourquoi on n'a pas vu Mélanie Raté-Bisaillon à Star Academy, mettons?
Premièrement, je ne croyais pas en mes capacités de chant.
Ah non?
C'était pas pour chanter que je faisais mes loups, à la base. C'est devenu ça parce que j'ai des fois des bulles au cerveau. En fait, je dis des fois, quelques fois par jour.
Ouais.
À un moment donné, j'ai fait, je pourrais chanter les chansons pendant les ateliers. Parce qu'au début, avant d'être mes loups officiellement, je le faisais de façon... Juste individuel comme ça, là, sans promotion.
Uh-huh.
Et je faisais des tests dans les garderies. Puis, à un moment donné, j'ai fait « Ah, je pourrais chanter les chansons comme ça, ça ajouterait une distinction. » J'aime ça faire les choses un petit peu plus côté artistique, là, mais avec une approche aussi scientifique.
Ouais.
Donc, apprendre les émotions, ça prend du temps. Hein? On n'a pas fini encore.
Les émotions?
Ben là!
Ah ouais.
Il y en a tout le temps de nouvelles qui coincent à quelque part. Voyons, qu'est-ce que j'ai pas compris?
Les
là?
Émotions, c'est pas un concept inventé, ça, c'est quoi?
Non, c'est une croyance, okay. Ça,
puis,
Yannick.
Mais Lou, elle se promène avec dans les CPE, les garderies, puis elle chante des comptines aux enfants?
C'est pas des comptines, c'est vraiment des chansons qui ont été instrumentalisées.
Ouais.
Et puis,
c'est tes chansons à toi?
Oui, c'est les chansons que j'ai écrites, je les ai composées aussi avec Guy Tourville.
Ouais.
On a des albums, là, ça va sur iTunes, sur Apple Music et compagnie.
C'est cool.
Là. Oui, oui, c'est vraiment cool. Puis aussi, il y a les livres. Il y a une série de livres, il y a une vingtaine de chansons, donc j'ai écrit tout ça. Puis,
Tu te connaissais-tu ce don-là?
Ben non, je le faisais pas comme... ben, je pense plus que c'est des capacités que des dons, puis tout le monde a ça. T'sais. C'est juste que des fois, on peut l'exploiter.
Ouais. Moi, j'ai longtemps pensé que j'avais des capacités pour dessiner.
Ouais.
Puis, un moment donné, avec mes bonhommes allumettes, j'ai jamais fait fureur. Ils ont jamais voulu m'engager comme illustrateur. Là. C'est...
Non, pourtant, c'est... Picasso, il est passé à l'histoire.
Ben, tu sais quoi? J'ai été à l'exposition Picasso à Québec, là. Il y a des toiles qui sont tout à fait incroyables et majestueuses, mais il y a des traits qu'il a fait que j'aurais pu faire moi aussi. Là.
C'est ça l'affaire, ouais. Mais c'est vrai, je comprends. L'histoire de Picasso, là, des fois, on se dit hey, « moi aussi, je pourrais faire ça », mais attends, il faut vraiment écouter tout le chemin qu'il a parcouru.
Exactement. Donc, toi, tu te connaissais pas ce talent-là, en fait, tu l'avais.
Ben, j'écrivais depuis que j'étais jeune, t'sais, comme adolescente, wow. J'écrivais des poèmes. J'ai musicalement parlant, là, ma mère me transmis cette passion pour la musique. Musique, puis vraiment ouais. Beaucoup d'angles de styles musicaux. Et c'est ce que j'ai recréé avec Melou dans mon album Mission Sourire. Ben, il y a 13 chansons, ils ont tous des styles différents. Donc, ça amenait aussi à l'éveil musical. Ça, je trouvais ça très intéressant. Hein.
Mais une fois que tu vois le produit fini de Melou, tu dois te dire, tabarouette, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai créé ça. C'est combien de personnes qui nous écoutent ce soir qui disent, ah, j'entends Mélanie Raté-Bisaillon, elle a créé un personnage, elle a fait des chansons avec ça. Bien, nécessairement, la musique vient avec. Après ça, tu as fait des livres de ce que tu me racontes. T'sais.
Oui, une série web, Dansons les émotions.
En plus.
Ben écoute, je te dirais,
c'est
Yannick,
nice,
là, ben moi, je trouve ça vraiment cool. Mais sache que derrière chaque personne qui reçoit les, ben justement, tu sais, la validation et la reconnaissance que tu m'apportes aujourd'hui, je l'apprécie beaucoup. Mais tu sais quoi, j'aurais jamais fait ça tout seul.
Non.
Il y a tout le temps des gens qui vont sur notre chemin, qui nous aident à bonifier, à ouvrir des horizons où nous, personnellement, on n'aurait pas été. Donc, c'est jamais l'histoire d'un seul humain. Hein. C'est vraiment là. C'est à un moment donné, j'ai été approchée par le gérant d'Annie Broccoli, de Kevin oui. Parent, France d'amour et compagnie, qui s'appelle Marc Lazare. Que là, j'étais à mon premier spectacle à l'Expo Saint-Hyacinthe.
Okay.
Puis j'avais encore des croûtes à manger. En tant que Melouche, j'étais naissante. Donc, forcément, j'avais pas encore écrit l'album Mission Sourire. J'étais à mes premières émotions. Donc, humblement, j'étais pas. Tu sais, je veux dire, il y avait vraiment des choses à améliorer. Mais lui, il a reconnu mon potentiel et il m'a approché puis il m'a pris sous son aile. Et là, après ça, ça a débloqué ça. J'ai rencontré Guy Tourville pour enregistrer mes prochaines chansons. J'ai rencontré Edith Myers, qui a été ma directrice de tournée pendant plusieurs années, qui est rendue au Nouveau-Brunswick maintenant. Mais elle accompagne des grands artistes au Québec. Puis,
ouais.
Mais c'est des gens qui ont une compréhension des arts, que c'est... Tu sais, on est dans un niveau où, moi, ça m'a permis de déployer mon potentiel beaucoup mieux. J'aurais pu faire ça autrement, puis ça aurait été autrement aussi, là. Donc, c'est jamais l'histoire d'une seule personne.
Je comprends, mais ça part d'une seule personne, puis après ça, il y a des gens qui se greffent, là. Tu sais, c'est de
ouais,
voir que t'as passé...
Oui, il y a une dénaissante.
Est-ce que tu te conditionnais à vouloir faire ça plus tard, devenir une chanteuse?
Non.
Ouais.
En fait, mais moi, j'ai toujours été chanteuse dans ma tête.
Non. On l'est toutes dans notre douche.
Non, mais j'étais petite, j'étais au chalet chez mes grands-parents. Je passais tous mes étés au chalet chez mes grands-parents.
Ouais.
Puis je me balançais là, puis, devant le chalet en bois rond là, à Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Puis il y avait Armand, le voisin, qui était ami de mon grand-papa Roméo, qui passait en marchant. Elle chante encore, elle. Écoute, j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8
ouais.
ans. Puis à un moment donné, ben, plus tard à l'adolescence, je pense que je me prenais pas pour du ketchup, puis j'ai chanté, puis tu sais, c'était pas de la vantardise, mais j'étais quand même, j'ai un niveau d'affirmation et d'expression qui est très élevé de nature.
Affirme.
Je m'affirme, puis moi, j'ai un côté candide. Donc, j'étais la petite fille candide qui, là, 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 puis là, chante. Puis j'ai senti le dérangement de certaines personnes clés dans ma vie qui a fait que je me suis mis à réprimer ma voix pendant des années.
Oh, OK.
Et là, je te dirais qu'avant de... Parce que là, tu dis que j'étais déménagée sur la rive sud de Montréal
ouais.
parce que je viens de Québec. Effectivement, j'ai grandi à Québec. Jusqu'à mes 33 ans. Avant de partir à Montréal, là...
T'étais vrai dans le même quartier que moi, je t'ai jamais croisé.
Ben, je le sais, on n'était pas dû encore.
Ben, j'étais
on
trop vieux,
pas mûrs.
J'étais vieux.
Ah, je les aime plus vieux, moi. Juste à ajouter un parapluie. Plus vieux parapluie, non?
Ouais,
okay,
c'est ça.
Ça.
Fait que quand tu dis que t'es arrivé à Montréal...
Oui, juste avant d'arriver à Montréal,
ouais.
en fait, la cause de mon déracinement à Québec, c'était par amour. J'avais rencontré quelqu'un dont j'étais tombée amoureuse et je suis allée le retrouver à Montréal. Et là, juste avant, au niveau de la rencontre avec ce garçon-là, j'étais dans un karaoké, puis j'avais chanté de façon tellement fausse que j'avais gagné un pichet de bière. C'était la petite grenouille dans le temps. Écoute, c'était vraiment drôle parce que là, je trouvais ça tellement drôle. Puis moi, j'aime ça faire rire les gens. Puis là, je me suis dit, ben, tu sais, tant qu'à chanter mal, puis de pas être sur la coche, moi, chanter. Puis je voulais pas avoir les regards désobligeants que j'avais déjà reçus, comme quoi, tu m'énerves parce que tu chantes bien, mais tu sais, je chante pas, là. Énervez-vous pas, là. Tout le monde va être déçu. Mais je fais juste chanter. Tu sais, je chante à ma façon, mais je chante. Pas faux, je chante correct. Puis là, à ce moment-là, j'avais fait plein de fautes, puis qui m'avaient justement mérité un pichet de bière et un rappel. Et là, moi, il y a un ami qui m'a filmé, on envoie ça sur les réseaux sociaux, puis je dis à la blague, je cherche un gérant pour éventuellement handicaper.
Wow.
Mais tu sais, quand tu veux planifier ton futur, là, t'arrives pas. Tu sais, comme on dit, hein, l'homme fait des plans et Dieu rigole.
Ouais.
Ben c'est ça. Fait que moi, j'avais pas planifié ça, c'était juste une blague. Mais le gars dont je suis tombée éperdument amoureuse, ben, imagine-toi donc qu'au début, il voit passer ça, il dit, mais c'est qui cette prétentieuse-là? Quand il a vu la vidéo, il a compris, il a trouvé ça drôle, puis là, il m'a contacté en privé.
Ah,
là,
ben.
C'est le même, ça a commencé. Pour te dire que chanter mal, ça va avoir été payant pour moi. Un instant, mais à un moment donné, il fallait que j'arrête, puis que là, je commence à reprendre ma vraie identité.
OK. Puis là, tu as commencé à chanter de façon peut-être professionnelle vers 25-30?
Non, à 35 ans, Mélou est née.
C'est 35?
Oui. OK. Oui, oui, oui. À 35 ans, j'ai commencé de chanteuse, puis même au début, là, je l'assumais pas, puis les gens, là, je commençais à faire...
Tu avais le sentiment d'imposteur?
Ben oui, parce que je croyais pas en mes capacités. J'ai toujours été très passionnée, mais en même temps, pas beaucoup de confiance, puis les choses que je faisais de façon... naturel, c'était quand j'avais pas peur, mais que j'étais comme dans une naïveté. Là, ça arrivait.
Ouais.
Mais j'avais pas d'attente de finalité. J'étais juste dans un moment où j'avais du plaisir, j'étais bien. Mais tu m'aurais dit, tu vas devenir chanteuse. J'aurais fait, ben voyons donc, tu sais, ça arrivera pas parce que je me mettais mes propres limitations psychologiques. Mais à ce moment-là, ça s'est avéré comme, là, j'ai eu des demandes d'entrevues, télé, radio, j'ai fait le Téléthon deux fois. Puis là, tu sais, c'est comme,
on se rappelle
quoi,
que
c'est
la fille qui a gagné un pichet parce qu'elle faussait.
Oui, c'est ça. Puis même que là, j'entendais les gens, bon, chanteuse pour les enfants. Puis, puis que c'est devenu, à force de l'entendre, c'est devenu ça. Puis j'ai comme fait, ben c'est ça. Mais tu sais, j'ai quand même une croyance qu'on n'est pas ce que l'on fait.
Ouais.
Parce que de toute façon, quand ça se fait, après ça, ça se libère. Mais t'es pas ça, c'est pas dans ton identité. Non. Tu exprimes ça, ça arrive. Mais on aime ça se mettre des titres. Mais dans les faits, on est beaucoup plus complexe que les titres qu'on porte, comme je suis chanteuse, quand je chante.
Mais c'est un chemin que t'as pris quand même, là.
Oui, inconsciemment. Mais oui, c'est devenu ça. Puis après ça, ben on faisait des karaokés underground en 2020. On rappelle le contexte. Fait que là, on faisait des karaokés, pas d'échange de micro, mais quand même. Là, à un moment donné, j'ai un ami, Patrice, qui me dit, « Hey, toi, là, on devrait faire quelque chose, là, un genre de chansonnier avec toi, parce que t'as comme une voix, tu sais, qui... » J'ai fait, ouah, je sais pas, hein. Mais là, ça a mûri, puis j'ai fait, hey, je vais aller chanter aux grands-parents. Puis en même temps, je vais raconter l'histoire de mes grands-parents. Ça va leur rendre hommage, tu sais, parce que tout l'amour que j'ai eu, puis toute cette sécurité affective, le petit peu que j'ai à l'intérieur de moi, mais qui vient de ma grand-mère, puis qui me rappelle justement d'où je viens. Puis j'ai fait, ouais, je vais faire ça. Fait que là, c'est une autre bulle au cerveau que j'ai eue.
Fait que là, t'as appelé ça la petite ratée.
Oui, ben c'était une question d'exorciser un peu mon...
Ton nom de famille.
Ben, je veux dire, tu n'es pas avec une grande fierté, là, tu sais. Ça se développe, comme on dit, la résilience, ça finit par s'acquérir. Ça vient pas tout seul avec le placenta.
J'ai trouvé ça parfait, moi, quand j'ai su le nom de ton personnage pour parler aux personnes âgées, la petite ratée, ça fitait, là.
Ça fitait au bout, puis il y avait des gens qui me disaient, ben voyons donc, tu vas te faire appeler la petite ratée.
C'est parfait.
Comme, non, t'as pas idée à quel point c'est hot.
Puis les gens vont le retenir, là.
Oui!
Parce que, tu sais, de un, c'est ton nom de famille, mais de deux, je veux dire, tu sais, la petite ratée, puis elle chante en plus.
Oui, c'est ça. Puis là, les gens disent, c'est qui la petite ratée? Fait que je me fais engager.
Puis les paroles, c'est toi qui écris tes chansons?
Non, pour la petite ratée, on y va avec la mémoire du cœur, parce que là, on stimule aussi au niveau avec des... je suis en contact des personnes âgées. Il y en a qui sont totalement lucides, mais il y en a aussi qui ont des troubles cognitifs. Il y en a qui font de la démence, qui font de l'Alzheimer.
Tu vas chercher la nostalgie?
Je vais chercher à travers... Écoute, c'était pas idée la magie que ça crée. Puis ça, je pense qu'il y a un côté magique, mais là, je me dis, bon, oui, c'est les neurosciences, ça s'appelle. Mais moi, j'aime ça, tout ce que ça me fait vibrer, là, tu sais, comme le dernier spectacle, la semaine passée, j'arrive dans un CHSLD, donc il y avait des personnes atteintes de troubles cognitifs plus lourds. Et là, je fais mon spectacle. Bon, c'est des chansons qu'ils connaissent, des chansons d'antan avec Jean-Angèle Arsenault, du Marthe Fleurant, du Adamo et compagnie. Là. Puis là, on roule les airs, puis tu sais, on y va, ça y est. T'sais, c'est comme, on est, en tout cas, pas piqué des verres. Puis là, après le spectacle, bien, une heure après, parce que là, je suis restée avec une femme qui attendait, qui trouvait ça long. Elle avait 97 ans, puis elle a encore 97 ans. C'est la semaine passée. Puis là, je disais, ça vous tente-tu, hein? Pendant qu'on attend, on va chanter. Fait que là, je chante avec, je l'accompagne jusqu'à la fin. Mais le temps que la salle se vide, il y a une infirmière qui revient me voir, une préposée, qui me dit, écoute, monsieur Chose, là, il a sorti son harmonica, puis il est en train de jouer de l'harmonica dans sa chambre. On l'a jamais vu dans cet état-là. C'est comme...
Ça ravive la mémoire peut-être oubliée des gens.
C'est incroyable.
Ouais.
Mais tu sais, c'est tellement beau, encore. C'est petit, c'est beau, ouais. Là, c'est...
Je suis pas rendu au niveau de tes clients, là, mais je me souviens encore de ce que ma mère écoutait à la radio AM, tu sais, quand j'étais jeune. Parce que c'était juste ça qu'on avait, nous autres. C'est une radio, elle mettait ça, puis on entendait de la musique. Puis je me souviens encore des paroles par cœur.
Oui.
Nous autres, c'était « Vive dans la nuit ». Tu te souviens-tu de ça?
Ah, bien tellement, tellement!
Ben, je me souviens de toutes les paroles, alors que moi, personnellement, j'ai jamais écouté ça de ma vie. Donc, j'imagine que lorsque je serai... Bon, dans 5-10 ans, lorsque je serai dans un CHSLD...
Je vais aller te visiter.
Tu vas venir chanter des chansons. Tu vas chanter « Vive dans la nuit », puis ça va me rappeler ce temps-là. Je vais me souvenir des paroles. Puis c'est la nostalgie, en plus. Les gens adorent, là.
Eh oui, ben oui. On a tout ça. Puis je pense que, tu sais, comme la nostalgie qui est dans la lignée de l'émotion de la tristesse, on a besoin d'aller reconnecter avec cette sensibilité-là. Parce que, tu sais, des fois, on porte la colère, la peur, puis les revendications et tout. Puis à un moment donné, on a besoin de s'attendrir un petit peu, hein, tu sais, parce que... Pour moi, pleurer, c'est aussi nettoyer la petite crotte sur le cœur, puis c'est le passage vers l'acceptation. Puis quand tu acceptes ce qui est, tout ce que tu peux pas changer, ben après ça, tu peux commencer à faire ouvrir ton champ des possibles pour faire, ben maintenant, où je m'en vais.
Ben moi, c'est le même processus, mais je joue au hockey à place.
Ah, mais c'est bon, ben c'est excellent.
Ça fait sortir le méchant.
Ben oui.
On est comme ça.
Ben oui.
Hey, je veux revenir sur le sentiment d'imposteur.
Oui.
On est-tu avec ça? Je parle avec des artistes. J'ai l'impression que je tiens quelque chose parce que quand je parle avec des artistes, que ce soit des chanteurs, des chanteuses, Marc Dupré est venu exactement à la chaise où tu étais. Je sais pas si ça te fait plaisir, ben mais il était sur ta chaise. Lâche la chaise! Puis il est venu là, puis pendant la pause, on jasait justement du sentiment d'imposture. Puis lui, il l'a encore. J'ai un de mes chums que j'ai connu à Québec sur le tard, mais c'est quelqu'un que j'aime bien, que je connais pas, je ne côtoie pas à chaque semaine, mais quelqu'un que j'aime bien, c'est P.Y., qui a déjà travaillé ici pour la famille Leclerc. Bon, on s'est connus par l'entremise du collège qu'on a fréquenté, par la suite, on a joué au hockey. Puis il y a de ça 2 ans, 3 ans, j'étais en entrevue avec P.Y., puis malgré le fait qu'il y a eu une super de belle carrière, puis sa carrière va encore super bien, il me disait, il y a de ça quelques années, qu'il y avait encore ce sentiment d'imposteur-là. Comme si on ne méritait pas ce qui nous arrive. Mm-hmm. Les belles choses de la vie qui nous arrivent. T'es promu à un poste. Il y a des gens
Né pour un petit pain, Yannick.
Ouais.
Tu sais, si tu t'en rappelles, hein, on est né pour un petit pain.
Oui, c'est ça. Mais on va en parler. Mais il y a des gens qui nous écoutent, qui sont sur la route, qui ont obtenu, je ne sais pas, une promotion dans le restaurant où ils sont, ou dans l'entreprise où ils sont, ou à job, tu sais. Puis ils ont l'impression que, oui, les patrons l'apprécient, mais ils ont l'impression qu'ils ne le méritent pas tant. Pourquoi on est comme ça?
Là, je vais te répondre avec une autre question. Et si on n'est pas né avec ça, mais on l'apprend dans notre enfance? Parce qu'on doit être modeste, parce qu'il ne faut pas déranger les autres, parce qu'il ne faut pas déplaire, parce que là, on se développe des stratégies maladaptatives. Bien, au début, c'est adapté à ce qu'on reçoit comme idéologie dans notre enfance. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation là-dedans. Puis, c'est ça. Puis là, après, tu ne comprends pas plus tard pourquoi ça chicote en dedans de toi, mais si ça te dérangeait pas ton complexe d'infériorité, tu le gérerais avec ça, puis on n'en parlerait même pas.
Ouais.
Mais pourquoi ça dérange? C'est parce qu'il y a quelque chose, il y a une vérité qui veut émerger de toi, qui est pas ce sentiment d'imposteur-là, là, c'est des fausses croyances que tu as adhérées à, oui, quand tu étais petit, maintenant... Ça serait peut-être bien de confronter les idées. Qu'est-ce qui m'amène à croire ce que je crois aujourd'hui? Et si on remettait en question des idées qui nous servent plus maintenant?
Ouais. Mais moi, c'est plus pour ne pas le remettre sur mes enfants. Parce que,
oui.
Tu sais, probablement que mes parents me l'ont induit sans vouloir l'induire.
C'est ça.
OK, mais t'es né pour un petit pain, donc nécessairement, tu
c'est
dois...
C'est ça, les petits mantras là, maladaptatifs.
Tu dois faire des petits jobs. Mais,
c'est très religieux, là.
Côtoyer des artistes qui ont réussi dans la vie, tu sais. Puis, ouais, il a réussi. Marc Dupré, il a réussi. Toi, t'as réussi. Puis de les entendre encore dire, ouais, une fois de temps en temps, tu sais, je me dis, voyons, pourquoi je mérite ça, tu sais, c'est...
Ouais. Puis tu sais quoi? Si, admettons, on va plus loin sur la réflexion, j'ai réussi, mais à chaque instant, je dois continuer à faire de quoi? Mes réussites du passé, là, ne font pas mon entièreté.
Exact.
C'est passé, c'est de l'expérience,
mais
c'est un processus, c'est un chemin.
Mais quand est-ce qu'on s'assoit et on se dit, bien, finalement, je peux l'enlever, là, mon manteau où je considère que je suis un imposteur, je l'enlève, pasteur, je vis avec les succès puis l'expérience que j'ai acquise au fil du temps.
Et peut-être les échecs aussi, parce qu'à quelque part, on dit qu'on a réussi, mais on parle pas de toutes les fois où on s'est planté, mais on n'est pas ce que l'on fait, tu sais, comme mon ami. Écoute, mon amie Gigi, elle me dit quelque chose de merveilleux
Gigi.
Une fois. Gigi, on la salue. Gigi me dit, tu sais, parce qu'elle, elle a intégré un peu l'approche émotivo-rationnelle, qui est un dérivé de la thérapie cognitivo-comportementale.
Là, tu me le dis si je saigne du nez, OK? J'essaie de le suivre.
Non, tu saignes des yeux.
Ah ouais?
Elle me dit. Pour me faire comprendre qu'on n'était pas ce que l'on faisait,
ouais.
Au niveau identitaire, là, oui, c'est sûr que je suis responsable de ce que je fais, de mes comportements, mais je ne suis pas ceci. Elle me dit, tu sais, Mel, elle dit pas parce que tu fais une tarte que tu es une tarte. Là, j'ai comme fait, oh, ça m'a comme un petit peu rentré dedans. Puis, pas de la même façon que dans le film American Pie, on va se le dire. Là, j'ai fait comme, OK, je vais mijoter là-dessus. Pas parce que tu fais une tarte que tu es une tarte. Ça, c'est intéressant. Puis, ça, c'est comme ben niaiseux, cette affaire-là. Mais ça m'a amené à remonter la réflexion souvent pour faire, je ne suis pas mon échec, je ne suis pas mon succès. Maintenant, qui je suis? Tu sais, je suis un humain. Faillible et imparfait, ici, pour vivre des expériences, apprendre de ces expériences, vivre dans l'amour, répondre à ses besoins, peut-être arrêter de s'attendre à ce que les autres répondent à mes besoins à ma place, me responsabiliser face à ceux-ci.
Ouais.
Puis après ça, c'est comme, amuse-toi, là. Amuse-toi, t'as le droit de déplaire, t'as juste pas le droit de nuire. Mon psy me l'a dit assez souvent.
T'as le droit de déplaire, t'as
pas le droit de nuire. T'as le droit, tu sais, admettons si je me module à mon environnement puis je me suradapte, puis parce que là, ça déplaît, parce que, tu sais, la susceptibilité, des fois, elle peut aller loin, puis là, je fais comme, bon, ben là, je vais, pour pas déranger, pour pas déplaire, ben je vais arrêter de faire ça, je vais arrêter, je vais chanter moins fort, je vais être un petit peu moins expressif, là, tu deviens un peu la version effacée de toi, la version terne de toi. Mais il n'y a personne qui veut vraiment ça, parce que tout le monde veut rayonner à sa façon. T'sais. On est tous des petits soleils, là, puis on a le droit de rayonner. Puis il n'y a personne qui a dit, toi, tu as le droit, puis l'autre n'a pas le droit, puis il n'y a pas de règles là-dessus. Il y a les règles que l'on autorise. Puis si moi, je ne me l'autorise pas, qui le fera? Mmh.
Mais... Je veux revenir parce que je veux faire un lien avec la façon dont on a peut-être été élevé, puis la façon peut-être qu'on élève nos enfants. Tu sais, prenant conscience de ça, on s'est fait dire longtemps, ben, tu sais, t'es né pour un petit pain, assure-toi d'avoir une job sécuritaire et tout ça, puis là, pense pas trop, tu vas être déçu, contente-toi. T'sais, est-ce qu'aujourd'hui, on peut renverser ça en éduquant nos enfants? T'sais, moi, j'ai les deux enfants que j'ai, c'est deux gars, ils sont très beaux, ils ressemblent à leur mère. Mais il y en a un qui me ressemble peut-être un peu plus, puis l'autre, il est un peu plus du côté de sa mère. Puis on les éduque de la même façon, ils mangent la même affaire, ils ont eu les mêmes punitions, les mêmes heures de coucher. Puis les deux sont complètement différents. Puis j'en ai un que j'ai l'impression, ben, qui me donne l'impression qu'il peut faire à peu près n'importe quoi. Il pourrait être astronaute ou artiste ou je le sais pas, moi, il pourrait être pêcheur. Il a de l'air à triper sur à peu près tout, puis il ne s'interdit rien. Puis j'en ai un autre qui est un peu plus hésitant. Pourquoi ça, je le sais pas. C'est deux frères, mm-hmm. sont le même mix de sang, là, le même ADN, sont pareils. Puis les deux sont complètement différents. Ouais, ouais. C'est weird, hein?
Ah oui, c'est
puis,
ça.
Puis je me dis, ben peut-être qu'avec l'autre, le plus petit, Isaac, est-ce que, vu que lui, il est un petit peu plus timide, un peu plus retranché, j'ai-tu induit ça sans le savoir? Tu sais, le fameux, hey, tu sais, vois pas trop loin, parce que, tu sais, nous autres, on n'est pas nés dans une... Tu sais, on n'est pas une famille issue de la noblesse, là, tu sais. Je l'ai-tu faite sans le savoir?
Bien, c'est sûr que malgré nous, on transmet des choses qu'on a conscience, qu'on veut transmettre. T'sais, tu veux-tu des brocolis ou des carottes, mon garçon? Bien, tu veux lui faire manger les légumes.
Moi, c'est plus,
ça, c'est
ne
contrôlé.
Mange pas de brocolis, tu vas me déplaire. Puis là, il mange ses brocolis.
Ah, OK, parce que la phase d'opposition...
Oui, mais ça part pas dans notre famille.
Non, on va parler des mémoires transgénérationnelles au prochain épisode.
C'est ça. Mais ça, on va en parler, oui. Bien oui, je l'avais prévu dans mon line-up. Vrai? Ben oui.
Wow.
Regarde ma liste.
Les grands esprits se rencontrent. Ouais. Ben écoute, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on transmet malgré nous, puis il y a des fois, tu sais, tu t'es-tu déjà dit, mettons, mon père ou ma mère là, faisait ça, puis ça me gossait, puis je veux pas ça, puis à un moment donné, tu te reprends en train de faire comme... Oh mon Dieu, c'est passé où ça? Dans une craque entre deux oublis. Puis, ben c'est sûr. L'important, c'est d'avoir des intentions bienveillantes. Puis, comme je te dis, on se rappelle qu'un humain, c'est faillible et imparfait. C'est bon pour tout le monde. Donc, personne qui nous a demandé d'être parfait. On fait de notre mieux. Puis, de reconnaître quand c'est amené à la conscience de dire « Oh, il y a telle affaire, j'ai eu un tel comportement puis j'ai réalisé que ça a eu un impact sur mon enfant. Maintenant, je peux adapter. Je peux revoir à mon comportement. » Tu sais, puis le bout où je te dirais qu'il me dérange puis que je te dirais « Oh, fail », ben ça serait, si tu le sais, tu l'as reconnu puis tu es dans le déni puis tu veux pas te l'avouer puis tu continues à le faire subir. Du moment où c'est conscientisé puis que tu arrêtes de le faire subir puis que tu... Mais à coup le pas, tu sais, l'humilité, là, c'est... s'en remettre à la terre. T'sais. C'est beau d'un humain d'être humble puis de faire « Oh, hey, je me suis trompée. » Puis de ne pas se flageller pour autant. T'sais. De ne pas avoir honte de se tromper. Puis je ne l'avais pas à ma conscience. Je ne l'avais pas sur le radar. Par contre, là, maintenant que je le sais, ben, je peux l'adapter. Mais si je crois que je suis la tarte parce que j'ai fait une tarte, ben là, je vais résister. Puis il n'est pas question que je sois une tarte. Puis tu sais, nanana, puis là, tu ne veux plus y aller. Puis là, tu ne vas pas corriger tes fautes. T'sais. Puis là, on revient à mon psy qui me disait « Tu as le droit de déplaire, tu n'as pas le droit de nuire. » Ben tu sais, je veux dire, nos enfants, est-ce que c'est une nuisance? Parce qu'il y a aussi les traits de personnalité des enfants. T'sais, s'il y en a un qui est plus extraverti, l'autre qui est plus analytique, introverti, il y a des marcheurs, les rampeurs, les marcheurs, les coureurs. Ça, c'est les tempéraments de vos enfants. T'sais, vous en avez deux pour voir la distinction entre les deux. Moi, j'en ai eu un. Donc, je ne peux pas comparer. Puis, c'est justement le mot comparaison. Ça, c'est un piège de l'ego. C'est tellement facile. On est pris avec ça. Puis, ça nous arrive tous. On se compare. Puis, des fois, on se console. Puis, des fois, ben on se rentre la tête dans le sable. Puis, on fait « Ah, oh, merde! » Mais de se comparer, c'est déjà comme un recul d'un pas. Tu n'as pas à comparer tes enfants. Tes enfants sont différents. Puis, ils vont avoir des défis différents. Parce que dans un environnement, ton grand, il va vivre telle chose, puis il va faire « Wow, je me déploie de mes propres ailes. » Puis l'autre va dire « Ben moi, dans cet environnement-là, je m'éteins. » Mais dans l'autre environnement, place-le au bon endroit. Puis il va trouver sa façon. Il n'y a pas une façon de bien faire. Tu sais, on a besoin aussi de veiller à plein de départements sur cette planète-là. Tu sais, il y a plein de choses à combler. Donc, c'est de trouver sa propre voie, son propre chemin. Puis que les enfants soient respectés là-dedans avec leurs distinctions, leurs forces, leurs faiblesses, puis qu'ils puissent rayonner chacun à leur façon.
Ouais. Mais c'était plus d'induire quelque chose que nous, on nous a induit. Quand, parce que mais je me rappelle que la discussion part du fait qu'on a tous comme l'impression d'être nés pour un petit pain, puis de ne pas mériter des fois une augmentation de salaire. Ça, c'est un peu plus rare. Mais pas mériter, je ne sais pas moi, que tu montes en grade.
C'est plus rare, hein, avec le...
tu montes en grade avec ton emploi, puis là, ben, tout d'un coup, tes chums de la job, puis ils te regardent un peu bizarre parce que tu es rendu comme le chef de cette section-là, tu sais.
Ouais,
là. Mais là, tu te dis, OK, ouais, mais c'est mes chums encore, mais là, il faut que je leur montre que je suis capable de faire cette job-là, il faut que je me fasse respecter, mais je le méritais tout le temps, tu sais.
Mais là, il y a la notion de mérite, mais il y a la notion aussi de changer de positionnement hiérarchique. Ouais. Ça, c'est un autre aspect qui est intéressant parce que là,
parce que je mélange les choses, mais c'était plus sur le fait du sentiment d'imposteur.
Ouais.
Ou sentiment d'imposture.
Ben, si tu assumes ton rôle, puis que tu recordes, puis que tu acceptes de... Bon, tu choisis une nouvelle posture, ben tu choisis aussi... Choisir, c'est renoncer. Mm. Donc, c'est sûr que tu pourras pas partir vers le haut de la pyramide en... Tu devras renoncer le beurre, l'argent du beurre. C'est bon, ça, c'est comme la... Tu peux pas prendre les deux, mais à partir de là, c'est un leader positif, là, ça se peut. Puis des personnes aussi qui sont capables de reconnaître, là, « Hey, si Yannick était capable de se rendre là, c'est inspirant. » Tu sais, s'il voit d'un œil là, optimiste, puis de faire « ben moi aussi, j'ai envie de ça », parce que la personne là, qui est dérangée de « comment ça, là, il est rendu là », puis tu sais, ça... Il a couché avec le boss. Il a fait un café à vanille.
Avec du sucre dedans.
Avec un extra sucre, là, il y a un rush de dopamine, puis là, on a tout perdu le contrôle. Non, ça, c'est mon côté chier un peu, là. Bon, mais tu sais... Tu peux le voir comme étant une menace ou comme étant un chemin, dire « Hey, ça m'inspire. » Puis si ça me dérange, pourquoi ça me dérange? Parce que moi, j'ai des désirs peut-être inavoués. Ou tu dis « Bien, occupe-toi-en de tes désirs. Tu veux être à la tête de l'entreprise. Bien, vas-y, travaille en conséquence. Puis vas-y, puis inspire-toi des autres. » Puis il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas de recette magique. Hein. Ouais. C'est de se travailler soi-même.
Tu as parlé tantôt de transmission intergénérationnelle.
Oui, les mémoires transgénérationnelles.
Okay. J'ai regardé un documentaire, je ne sais pas si j'ai vu ça sur Netflix ou sur une autre plateforme, mais c'était des scientifiques qui se sont penchés sur les animaux puis les humains. Mais ils se sont, d'entrée de jeu, penchés sur les animaux.
Non, c'est une joke.
Ouais, ça c'est plus tard, le soir. Mais les scientifiques se sont penchés sur le fait que Qu'est-ce qui se passe dans l'ADN? C'est-tu juste des formules mathématiques, du sang, du liquide et tout ça, ou il y aurait peut-être d'autres choses? Puis ils en sont venus à la conclusion, parce que autres, leur hypothèse, c'est que, pas les humains, parce que, bon, on est des animaux, mais on a évolué d'une autre façon, mais il y a des animaux qui naissent qui sont capables de reconnaître tout de suite les prédateurs, ou qui sont capables de reconnaître tout de suite qu'ils sont capables de nager ou pas. Qui sont capables de reconnaître le danger, qu'est-ce qui est le danger, puis qu'est-ce qui est la sécurité. Puis les scientifiques ont dit, bon, ça, c'est notre hypothèse, puis ils ont réussi à le prouver, puis ça, ce serait par la transmission de l'ADN. Il y a de l'information hyper pertinente qui est inclue là-dedans, dans le bagage génétique qu'ils te donnent. Puis ils en sont venus à dire, possiblement que les humains ont ça aussi.
Oui.
Fait que si toi, t'as une peur épouvantable de l'eau, mais il t'est jamais arrivé une histoire avec l'eau. T'sais, ça a tout le temps bien été. Là, tu buvais de l'eau, ça a bien été. Mais dès que tu es dans un endroit où il y a un gros lac puis tu as l'impression que tu te noies, ben, l'hypothèse des scientifiques, c'est qu'il y a quelque chose dans l'ADN qui fait en sorte que ça t'a été transmis, qui te dit que l'eau, c'est un danger. Puis ça peut venir de ton arrière-grand-mère. Ouais. Ça peut venir de ton arrière-arrière-arrière-grand-mère. C'est comme les gens qui ont peur en avion. Tu as plus de chances de te faire frapper par une voiture que de faire un crash d'avion. Mais les scientifiques disent...
Ou une trottinette de ce temps-là.
Possiblement que c'est arrivé dans votre famille éloigné, qu'il est arrivé quelque chose, puis le sang a fait en sorte que ça s'est rendu jusqu'à vous, puis là, ben, vous, sans le savoir, vous avez une peur de prendre l'avion, alors que vous ne devriez pas avoir peur de prendre l'avion.
Ça s'appelle l'épigénétique.
L'épigénétique.
Oui. Ça se transmet de génération en génération. Puis souvent, c'est les mémoires traumatiques qui sont apparues avant la période de fécondation du bébé. Donc, tu sais, si ma grand-mère, elle a vécu des traumas avant la naissance de ma mère, bien, elle transmet le bagage, la mémoire émotionnelle cellulaire, la mémoire cellulaire. Elle transmet à ma mère et ma mère, elle, à son tour, elle transmet, bon, elle vit des choses, puis elle m'a eu à 23 ans. Bien, tout ce qu'elle a vécu avant 23 ans, bien, elle fait un bagage génétique que là, elle me transmet. Il y a des choses qui vont pouvoir s'éveiller. Il y a des choses qui vont toujours être latentes puis ne jamais voir le jour. Ça va jamais... Ça dépend des contacts. Ça dépend du chemin que tu fais. Il y a des trucs qui vont faire comme... Ou un déclencheur, puis là, ça réactive. Donc oui, parce que c'est sûr que ça fait partie du système de l'évolution. Parce que si on doit réapprendre à chaque fois puis qu'on perd toute notre mémoire à chaque fois, bien, l'humain ne peut pas évoluer. L'animal ne peut pas évoluer. Puis nous, ce qu'on a perdu, au contraire de l'animal, c'est que les animaux sont très près de leur instinct, sont très près de l'écoute d'eux-mêmes. Nous, on a arrêté de s'écouter, je ne sais pas quand, mais on a commencé à écouter les autres, qu'ils savaient plus que nous, souvent. Puis ça, c'est devenu comme un réflexe de « moi, je ne suis pas capable moi-même, mais... » Tu sais, des fois, tu le sais que, mettons, nous, on les connaît aussi, des fois, les prédateurs. Des fois, on se fait pas confiance, on met le voile, on met les lunettes roses. Des fois, c'est l'évitement, des fois, c'est du déni, de la fuite, mais on n'adresse pas les vraies affaires. Puis, on se perd là-dedans, puis après, on se dit, maudite, non, je le savais, hein?
J'aurais dû m'écouter.
Ben oui, parce que ton instinct, il te l'a dit, mais toi, tu l'as douté parce que t'as un syndrome de l'imposteur. Tu vois-tu comment on fait des liens?
Mm-hmm.
C'est écœurant.
T'es fou.
Je vais prendre une gorgée.
OK. Est-ce que le bagage génétique que nos parents nous transmettent, bon, toi, tu dis que dès la naissance, bah, ça a été transmis de ça, mais ça peut-tu popper à 50 ans? Est-ce quelque chose qui peut popper à 50 ans?
Écoute.
Dans cette mémoire-là?
Je peux pas te dire parce que là, je dois quand même placer que je suis pas une chercheure, je suis pas une scientifique.
Ouais.
Je suis une fille curieuse qui étudie en psychologie, qui étudie en neurosciences, qui fait beaucoup d'études très sérieuses, mais puis des formations. Tu sais, j'ai investi une majorité de mon budget est investi dans des formations. Donc, ça, je le fais. Par contre, je n'ai pas le titre de chercheur, je ne suis pas neurologue et biologiste. T'sais. Donc, tout ce que je vous dis, là, c'est vraiment de... Moi, c'est ça que j'ai capté comme info, mais on ne parle pas de science infuse ici.
Non,
là,
non,
là.
C'est ça. Mais on parle pour jaser.
Fait que, on jase pour jaser.
Ça peut-tu arriver à 50 ans de te souvenir de ce que ta grand-mère a peut-être arrivé?
Bien, j'ai l'impression que oui, parce que s'il y a un contact qui se fait à 50 ans, parce que à 50 ans, tu vis des choses que tu ne vis pas à 20 ans. Donc, à 50 ans, s'il y a quelque chose, puis ta grand-mère, elle t'a transmis un truc quelconque qui fait que là, exemple, tu as une peur viscérale de la mort tout d'un coup, puis parce que là, il y a quelque chose qui est arrivé. Je pense que ça prend un déclencheur, là. Il me semble que c'est ça. Puis, il n'y a pas d'âge, hein, pour que ça arrive ou que ça n'arrive pas, là. Le chemin, tant qu'il y a de la vie, tant que tu es en vie, tant que tu es en mouvement, puis jusqu'à la fin, jusqu'à à la dernière seconde, nanoseconde, ça se passe.
Ah, la machine humaine est juste hallucinante. Là. Je jasais avec Maître Bellemare il y a de ça quelques mois, puis Maître Bellemare me racontait qu'il y a des gens qui ont vécu des traumatismes dans le passé. Puis tiens, je vais te donner une date, 1984, OK? Il est arrivé une tragédie à Québec. Tu en as certainement entendu parler. C'était Denis Lortie qui a décidé de rentrer armé à l'Assemblée nationale puis qui a tué des personnes. Puis tout ça, ça a été filmé, parce qu'à l'intérieur de l'Assemblée nationale, il y avait des caméras. Puis là, on voyait Denis Lortie qui était sur le trône du président avec sa mitraillette. Puis tu avais un monsieur qui s'appelait M. Jalbert, qui était le sergent d'armes de l'Assemblée nationale, qui lui est allé jaser avec Denis Lortie. Il a fumé une cigarette avec lui pour essayer de détendre un peu l'atmosphère, même si Denis Lortie avait tiré partout puis il avait tué des gens. Puis il a réussi à l'amener dans son bureau derrière puis le faire arrêter. Mais les gens qui ont vécu cette expérience-là, qui étaient à l'intérieur de l'Assemblée nationale qui ont vu des collègues se faire tirer. Eux, dans les années 90, ils vivaient encore. 2000, ils vivaient encore. 2010, puis 2024, il y en a certains qui vivent encore. Et il y a des gens qui, après 5 ans, avaient déjà oublié cette histoire-là puis qui étaient passés à d'autres choses, puis qui étaient retournés au travail. Puis quand on a commémoré le 20 ans, ou le 30 ans, ou le 40 ans de ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale, Maître Bellemare me disait que les gens redéclenchent. C'est comme s'ils revivent exactement seconde par seconde ce qu'ils avaient vécu en 1984, alors qu'on est rendu en 2024.
Ouais,
mais ils peuvent te dire avec exactitude tout ce qui s'est passé, alors qu'ils avaient oublié, là. Dans les 10, 15 dernières années, ils avaient oublié. Mais là, ils tombent sur un article de Radio-Canada, ils voient que c'est telle date en 1984, Denis Lortie, eux, ils étaient là, ils ont vu leurs collègues, pof, ils repartent.
Il y a un déclencheur. Puis aussi, on comprend que, tu sais, comme dans l'apprentissage, parce que c'est quand même un trauma, un traumatisme, c'est quand même un apprentissage d'une réalité momentané. Là. Tu sais, ce qui est arrivé, c'est j'apprends qu'il y a tel danger, j'apprends... Ils ont vécu quelque chose d'intense. Mm. Et les façons différentes d'apprendre, c'est soit par répétition, comme à l'école, on répète l'alphabet, on répète, puis ça finit par nous rentrer dans la tête, ou aussi par une émotion.
Si je me fie à mes ex, là, ça ne ça ça rentre pas dans la tête. Non,
mais... ça marche pas. Toi, tu as besoin d'intensité, ouais, Yannick. Toi, tu as besoin de ton fixe d'adrénaline.
Ouais, peut-être. C'est peut-être que je passe attentif.
Toi, tu dois faire du bungee. Là.
Oh, oui, ben oui.
Oui, ah, je le savais. Ouais, oui. Tu vois, comme. Je suis pas scientifique, mais je suis quand même intuitive. Mais c'est ça, c'est soit par la répétition, ouais, ce qui ne marche pas pour toi, ou soit une émotion très forte. Le déclenchement d'une émotion très intense crée la rétention de l'information. Donc, eux qui ont vécu justement ce trauma-là, ouais, ben il y a quelque chose qui est tellement... ils vont être capables de décrire en détail, ils vont s'en souvenir jusqu'à la fin de leur jour, là. Puis oui, aussi, il y a la mémoire sélective, qu'il y a des choses que tu, ouais, veux endormir, puis que tu fais... Tout d'un coup, ça se réveille. « Hey, j'ai vécu ça, je l'avais complètement,
exact,
oublié. »
Mais ce qui est stupéfiant, c'est ça. Tu sais, je veux dire, moi, mes yeux à moi, j'ai jamais été menacé d'une arme, là. Mais j'ai pas l'impression que je pourrais guérir de ça après 2 ans, 3 ans, malgré le fait que eux, après 5 ans, étaient retournés au travail. Il y en a d'autres qui sont retournés au travail 2 semaines plus tard sans aucun problème. Mais il y en a qui ont dû être sur les accidents de travail, mm-hmm, ça filait pas et tout ça. Ça s'appelle la vie, là. Mais à un moment donné, le cerveau se répare, puis il compartimente, ouais, cet événement-là traumatique, puis il laisse là. Puis si tu n'en entends pas parler, ça ne déclenchera plus jamais. Puis si tu vois un article de Radio-Canada sur ce qui s'est passé en 1984, dans leur cas, ce que Maître Bellemare me disait, c'est que ça déclenche. Ouais. Ils sont revenus au jour où ils se faisaient attaquer par,
ouais,
Denis Lortie.
Oui, c'est incroyable. Hein?
Ouais.
C'est
pour, ouais, ça que c'est important qu'il y ait de la recherche là, là-dessus.
Ben oui, ben oui. C'est important de savoir comment on fonctionne exactement. Ouais. Comment ma machine fonctionne. On veut aller sur la Lune, on veut aller sur Mars. Ben, je sais pas, moi, je vais aller, aller magasiner. Je vais, ouais, aller aux Galeries de la Capitale.
Moi, je vais aller sur Mars, toi, tu vas aller aux Galeries de la Capitale. On a 2 objectifs.
C'est ça. T'sais, c'est qui le plus réaliste dans la gang? Mais tu sais, j'ai perdu le fil. Bon, je vais prendre une autre gorgée de malaise.
Non, on disait que le cerveau... On comprend pas tout le fonctionnement du cerveau.
Non, c'est ça, c'est ça. Tu sais, ça se passe entre nos deux oreilles. On dit que dans le cerveau, c'est comme un univers en soi.
Ouais.
C'est fou, hein? C'est juste entre tes deux oreilles, là, t'en auras pas assez de 10 vies pour faire le tour.
De mon cerveau? Hey, c'est la première fois qu'une femme me parle de même.
Peut-être le tien, je sais pas, on se connaît pas assez encore.
C'est la première fois qu'une femme me parle de même, hein? Il se passe
non,
de quoi dans mon cerveau?
Je veux briser ton syndrome de l'imposteur.
Ben oui, c'est ça. OK. J'avais vu aussi quelque chose passer, puis ça, c'était avec Christian Page. Connais-tu Christian Page?
Mais tellement.
Qui a fait des chroniques avec moi pendant des années, qui travaille au 98.5 à Montréal. Puis il y avait des études qui avaient été faites sur ceux qui rapportaient partout dans le monde avoir vécu des expériences de mort imminente, des EMI, là, qu'on appelle. Et ce qui stupéfiait les scientifiques concernant ceux qui disaient avoir vécu des expériences de mort imminente, c'est peu importe le pays, peu importe le continent, c'était toujours les mêmes choses qui étaient décrites. Il y avait des gens autour de moi que je connaissais qui étaient là pour m'accueillir. Il y avait des gens que je ne connaissais pas qui étaient là, qui étaient contents que je sois là. J'ai revécu le cours de ma vie. Okay? Mm-hmm. Là, quand tu dis ça de même, c'était super excitant. Tu te dis, Colin, on a découvert quelque chose, il existe quelque chose après la mort.
Mm-hmm.
Mais les scientifiques, non, c'est, ils ont connecté le cerveau de quelqu'un qui était sur le point de décéder. Puis contrairement à ce qu'ils pensaient, que le cerveau s'éteignait comme une lumière d'une pièce, là, le cerveau, c'est certaines portions du cerveau qui s'éteint en premier. Et le dernier endroit où le cerveau s'éteint, c'est les souvenirs. Donc, l'hypothèse des scientifiques, c'est que les gens qui reviennent à la vie, ben eux, cette portion-là du cerveau était juste encore fonctionnelle. Fait que quand ils reviennent avec les yeux ouverts, ils disent « Hein, j'ai été dans le tunnel », mais c'était pas un tunnel, c'était juste, tu étais dans un endroit où normalement, c'est consacré aux rêves, c'est consacré aux souvenirs.
OK.
C'est plate.
Puis maintenant, non, mais c'est plate.
C'est moins excitant.
Je vais te dire quelque chose de plate pour ajouter à ton plate. Mais Tu sais, les scientifiques, il y en a qui se penchent sur des questions, il y en a qui se confrontent, ils ne sont pas tous d'accord.
C'est la science.
Donc, il n'y a rien d'absolu en science. Ouais. Tu sais, il faut juste faire attention pour ne pas trop s'attacher à une idée comme étant vraie. Parce que c'est vrai jusqu'à temps que ça ne le soit plus.
C'est ça. Mais leur hypothèse, qu'est-ce que
c'est
avéré.
Qu'est-ce que tu penses? Oui, mais leur hypothèse, ce n'est pas parce qu'elle est vraie que le reste est faux. On pense de façon binaire. Pas parce qu'une affaire est vraie que le reste, tu sais, l'opposé est faux. T'sais, on est dans un monde où il y a des polarités, où il y a des paradoxes.
Oui, mais il y a des choses qui s'expliquent, tu sais.
Oui, mais il y a des choses qui ne s'expliquent pas.
Oui, entièrement d'accord.
Ben, mais tu sais, qu'est-ce que tu penses des voyages astrales, alors? Puis qui ont démontré qu'ils étaient capables d'aller voir dans telle autre pièce à côté, à l'instant T, qu'il y avait telle chose, telle personne avec telle sacoche, qu'il y avait quelque chose qui dépassait, puis dans le détail, puis qui ont rapporté ça à travers le monde aussi.
Ben, je regarde le temps qui nous reste, là. On peut s'astiner un peu.
Je pensais que tu venais t'éclairer.
Il y a eu des primes d'$1 million, $10 millions qui ont été données, qui voulaient être données par des scientifiques concernant quiconque était capable d'avoir ce type de, entre guillemets, don-là.
Okay? Sont où tes sources?
Mais, en fait, les sources sont là. Je peux te les donner après l'émission. Puis, il n'y a jamais personne qui a réussi à se présenter qui était capable de faire bouger, des choses à distance, qui était capable de deviner ou d'être capable de dire, dans l'autre pièce, il y a quelqu'un qui est en train de dessiner un bonhomme allumette. Ça existe, en tout cas, selon les lectures qu'on a faites, selon les documents que moi j'ai lus avec Christian à l'époque, ça n'existe pas ou ça n'a jamais existé, des gens qui se sont présentés puis qui ont réussi le test avec succès. Ce que les gens disaient à la sortie, c'est « on est dans un laboratoire, on est stressé, on n'est pas capable de reproduire ce qu'on fait à la maison ». Eux prétendent être capables de le faire à la maison. Je suis qui pour dire que ces gens-là me mentent, s'ils croient réellement qu'ils l'ont fait. Mais pour ce qui est des voyages astraux, okay, on a découvert la porte des voyages astrales. Puis ça s'appelle la paralysie du sommeil. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. C'est drôle parce qu'on en a parlé la semaine dernière à l'émission, fait que c'est pour ça que je m'en souviens très bien. Moi, j'ai vécu deux épisodes de paralysie du sommeil. La première, je ne savais pas c'était quoi. Mélanie Raté-Brizorion, j'étais terrorisé par ce qui est en train de m'arriver. J'étais brûlé raide. Je travaillais 16 jours sur 7. Je bâtissais ma maison dans le secteur de Lévis. En fait, je rebâtissais ma maison dans le secteur de Lévis parce que je l'avais tout démanché. Puis à un moment donné, j'arrive à la maison. Pas de blonde, pas d'enfant. La best life. Il y a de la bière dans le frigidaire. Fait que je prends deux bières. Je me couche sur le divan. J'écoute la télé. Je m'endors là. Quelques minutes plus tard, je me réveille. Il n'y a rien qui bouge. Mes yeux sont pas capables de s'ouvrir. Mon corps n'est pas capable de bouger. Mais je sais que je suis alerte, que j'entends tout ce qui se passe autour de moi. J'ai l'impression que ça dure 45 minutes, alors que si je me fie aux scientifiques, ça dure à peu près 45 secondes. Mais c'est un temps où tu te poses une question, à savoir, attends un peu, c'est-tu là que c'est fini? Je suis rendu quadriplégique? Qu'est-ce qui s'est passé pendant que je dormais? Puis à un moment donné, le cerveau envoie une hormone au corps en disant « OK, t'es réveillé, tu peux bouger et c'est là que tu débloques.
Mm-hmm. »
Et ça, cette portion-là, pour les gens qui l'ont vécu, il y en a qui ont effectivement rapporté ce que toi, tu nous dis, c'est-à-dire « J'ai eu l'impression de faire une sortie de corps, mais ton cerveau est peut-être pas encore réveillé. » On le sait pas. Fait que c'est peut-être ça qui fait en sorte que...
Il y a des expériences différentes.
Ouais, c'est peut-être ça qui fait en sorte que les gens disent « Ouais, mais là, j'ai fait, comment j'appelle ça? »
Une
paralysie du sommeil, mais j'étais capable d'être au-dessus de moi puis de me voir. Mais ça, on ne sait pas si c'est encore dans le rêve ou si ça ne l'est pas.
Mm-hmm.
Mais la deuxième paralysie du sommeil que j'ai faite, ça, c'est plusieurs années plus tard, là, j'ai vraiment trippé. Là. Parce que là, je me dis...
C'était pas de la bière j'avais prise.
Je suis capable de faire une sortie de corps. J'étais pas capable. Mais j'étais capable de lever mon... Dans ma tête, j'étais capable de lever mon pied, mais je savais que mon pied ne bougeait pas. Fait que là, j'avais expérimenté ce que les autres disaient avoir vécu. Moi, ça demeure du scientifique, je reste dans le factuel. Mm-hmm. Mais la porte vers le voyage astral, entre guillemets, ça serait celle-là. À partir du moment où tu fais de la paralysie du sommeil, il y en a qui disent que tout est possible.
Une porte d'entrée, c'est intéressant. Ouais. Moi, j'en ai fait souvent des paralysies du sommeil. Là.
C'est la panique quand
c'est
tu l'as fait la première
tu
fois.
C'est paniquant. Tu manquais-tu d'air? Moi, ça me coupait. Même au niveau de l'air, là, j'arrêtais de respirer.
Moi, j'ai pas manqué d'air. Tout ce que je sais, c'est que je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui m'est tombé sur le dos, puis plus jamais. Ça va être la chaise roulante, c'est fini.
Il y a des fois où c'est souvent dans des périodes où on est très fatigué.
Ouais.
Hein? C'est ça.
C'est ce qu'ils disent.
Mm-hmm. Oui, on est des survivants.
Ouais. Fait que là, les voyages astro, on sait pas, mais la paralysie du sommeil, si vous l'expérimentez, écrivez-moi, ça m'intéresse.
Oui, c'est ça.
OK, nous, 418-971-1021, si vous avez des choses à nous dire, je vous rappelle que ce soir, on a le plaisir de passer 60 minutes en compagnie de l'artiste, de la chroniqueuse, de la chanteuse Mélanie Raté-Bisaillon avec un animateur de radio, juste ça. Et on fait une courte pause et on revient.
Marceau, le soir. Reg against le matin. Le matin.
Boulevard 102A.
Pascal Paradis, qui est député du Parti québécois, pont La Violette à Trois-Rivières fermé d'urgence, pont de Québec fermé pour des travaux. Ça aurait pu être plus critique. Que ça change votre opinion sur le besoin d'un troisième lien?
Non. Il y a des véritables problèmes de circulation à Québec, dans la région. Ils ont été analysés, ces problèmes-là, sous toute leur couture. Cette solution-là, ce n'est pas la bonne. C'est pas ça qui va régler les problèmes. Donc, je comprends qu'il y a des gens qui pensent, ben, ça va régler mon problème, par exemple, quand j'arrive la partie nord de la ville vers le centre-ville. Non, ce n'est pas ça qui va régler le problème. Et nous, comme politiciens, il faut qu'on prenne les décisions sur la base des meilleures données possible.
Pour ton rattrapage de Rage Against the Machine, rends-toi sur le blvd.fm et l'application mobile.
102.1
Tous les lundis de 18h dans Marceau Soir, ne manquez pas l'ex-ministre de la Justice, Maître Marc Bellemare. On jasera de justice, d'actualité et bien plus. bellemareavocat.ca.
OK, alors on commence avec les meilleures offres locales au meilleur prix. Choisis et négociez pour vous par mercado.fm.
Obtenez une boîte découverte d'une valeur de 135 $ à 68 $ chez Farine et Basilic.
Pas jugé. Prochaine offre.
Obtenez un chèque cadeau d'une valeur de 50 $ à 25 $ chez Pizzédélic Cartier.
Pas jugé à monsieur, madame qui écoute la radio dans son auto, au boulot, n'importe où. Divertissement, soins, hébergement, restaurant. mercado.fm.
Du 4 au 10 novembre, c'est la semaine québécoise des rencontres interculturelles.
Tissons des liens entre nous.
Car nous avons le Québec en commun.
Qu'on soit d'ailleurs ou d'ici.
Participons à des activités qui nous rassemblent partout au Québec pendant cette semaine québécoise des rencontres interculturelles.
Consultez les calendriers pour les activités dans votre région sur québec.ca/rencontres interculturelles.
Un message du gouvernement du Québec.
Chez Desjardins Assurance, vous pouvez assurer votre auto en ligne. Et c'est super simple.
Ah ouais.
Et ils ont de l'expérience. Plus de 80 ans.
Ça change quoi?
Bien, imaginez si votre enfant faisait des bricolages tous les jours depuis 80 ans.
Regarde, papa.
Ah, oh, t'as fait une fusée. Grande comme la maison. Puis elle vole.
Vous voyez?
Ouais, c'est vrai qu'ils doivent être bons.
Desjardins Assurance. C'est pas d'hier qu'on assure. Et ça, ça rassure. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s'appliquer.
Le Salon du VR de Québec célèbre son 30e anniversaire. Plus d'une centaine d'exposants et conférenciers vous dévoileront les nouveautés et primeurs du monde du VR et du tourisme. Du 31 octobre au 3 novembre, au Centre de foire d'Exposité, c'est un rendez-vous pour le vrai Salon du VR de Québec. Roulez, explorez, profitez. Pour plus d'informations, visitez lesalonduvr.com. Le Salon du VR de Québec, une présentation d'Orbit, anciennement Leclerc.
Oh non, l'auto part pas. Les enfants vont rater leur cours de natation.
Ben, pas de panique, on va appeler CAA Québec.
Ben oui, mais je suis pas membre.
Ben moi, oui.
Mais c'est pas ton auto.
Ben c'est pas grave, c'est moi que CAA dépanne, pas ma voiture.
Devenez membre CAA Québec dès maintenant pour moins de 9 $ par mois et roulez l'esprit tranquille. Peu importe si vous êtes conducteur ou passager, dans votre auto ou dans celle d'un ami. Adhérez sans tarder à caaquebec.com.
Décrochez le temps d'une soirée dans le Vieux-Québec. Ça vous tente? Boulevard 102.1 veut vous en faire profiter. Mercado.fm vous propose un forfait gastronomie et hôtel au cœur du Vieux-Québec, comprenant une nuitée en chambre supérieure pour deux personnes à l'hôtel Champlain, incluant le petit déjeuner, une place de stationnement et un chèque cadeau de 100 $ au bistrot L'Atelier ou au restaurant Ophélia. L'hôtel Champlain, un bâtiment historique alliant confort et modernité. Offre limitée, valide jusqu'au 30 avril au Mercado.fm.
T'es autant intéressé par ce qui se passe à Québec que par ce qu'il y a de nouveau dans le monde du rock? Boulevard 102.1. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Le soir. Mon invité de ce soir, Mélanie Raté-Bisaillon, c'est une artiste, c'est une collaboratrice, elle est multidisciplinaire, c'est la petite ratée pour les gens d'expérience et c'est la petite mélou pour les gens avec un peu moins d'expérience. C'est comme ça qu'on te décrit?
Oui, ben moi je touche tout ce qui est sage, tout ce qui est...
Ouais.
oui, c'est ça. Donc,
moi je touche tout ce qui est sage.
Tout, c'est bizarre à dire, hein? On leur prend tout seul.
Ah oui, c'est ça. Je demandais pourquoi tu ne voulais pas me donner la main tantôt. Hey, je t'ai vu passer, tu étais à l'événement Y avec Guillaume Dulude. Comment
oui.
ça a été?
Ah, oh, c'était phénoménal.
Ouais.
C'est incroyable.
5 à 6 000 personnes, de ce que je
ouais.
comprends.
Oui, oui, ouais. C'était la foule, tellement d'énergie. Puis moi je te dirais, là, Guillaume Dulude, là, ça fait 2 ans et demi que je suis une formation intensive avec lui
ouais.
qui s'appelle Précog. Il y a Précog Existence, il y a Précog Expertise et il y a Précog Expansion. Écoute, il se réinvente à chaque seconde, ce gars-là. C'est incroyable à quel point il comprend toute l'approche précognitive de l'humain. Là. Tu sais, tout ce qui est dans la précognition, le pré-comportemental,
ouais.
Tu sais, avant que tu y penses de ta conscience, comme c'est déjà activé dans ton cerveau, dans ton inconscient. Puis c'est fou comment ça m'a aidé de suivre cette formation-là. Puis... je sais pas comment te dire là en 4 minutes à quel point je suis reconnaissante de faire ce chemin-là avec lui.
Ouais.
J'ai pas le mot, il faudrait faire une émission en
ouais.
soi.
C'est
là.
Quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Guillaume Dulude. On parle de divers sujets là, une fois de temps en temps. La dernière fois qu'on lui a parlé, on parlait de l'ego.
Ouais.
Puis on a fait un genre de 20-25 minutes là, à parler d'ego ensemble avec ma collaboratrice qui est en Europe présentement, Pascal. Puis non, c'est quelqu'un que j'aime bien. Il y a très peu de Guillaume Dulude dans la société. Il faudrait qu'il y en ait peut-être un peu plus. Bon, je remarque que c'est peut-être ça qui fait qu'il est très unique. Là. Son événement Y, il y avait des gens qui étaient invités. Je pense que vous aviez Anthony Cavanagh qui était sur place.
Oui, Anthony Cavanagh qui était à l'animation.
Ouais.
Il y avait Serena Williams, la championne mondiale
de tennis.
Et il y avait Chris Hadfield. Astronaute, ouais. Le colonel, astronaute canadien, il faut le dire.
Ouais. Chris Hadfield, qui est tout un personnage aussi. Là.
Oh,
moi, j'ai fait beaucoup d'entrevues dans ma vie, là, mais Chris Hadfield, je l'avais invité pour moi. Je ne l'avais pas invité
ouais.
pour les auditeurs.
Et en plus, il parle en français.
Oui, j'ai eu l'occasion d'être son chauffeur d'un jour à Sainte-Marie-de-Beauce
ben,
quand il était venu
donc,
faire
ouais.
un tour. Puis là, je capotais parce que là, c'est moi qui conduisais un astronaute. Puis il m'avait donné une clé USB. Qui venait de la NASA. Sur la clé USB, c'était écrit NASA. Puis il m'avait dit, ce que je vais faire tout à l'heure, ma conférence, tout ça, c'est là-dessus. Peux-tu me le sortir en PDF?
Sans shaker.
Pas de problème. Fait que là, il me donne ça, puis on avait jasé pas mal. Puis je l'avais trouvé hyper sympathique. Puis quelques années plus tard, je me suis dit, hey, je le veux en entrevue. Puis on avait jasé de ses premières sorties dans l'espace. Puis je veux dire, j'ai encore ça. T'sais, je garde pas ben bête d'enregistrement dans ma vie sur des entrevues, mais celle-là, je l'ai gardée. Il y en a peut-être une dizaine que j'ai gardées avec le temps, des gens d'exception là,
ouais.
que j'avais rencontrés dans ma vie. Puis Chris Hadfield est un gars d'exception. Il donnait une conférence avec vous autres?
Oui, il a donné ouais. une conférence, puis c'est ça. Moi, il y avait un bout où il parlait en anglais, donc là, j'allais dans le téléprompteur de l'autre bord, là, avec l'écran, parce que c'était traduit.
Ouais.
Je suis pas bilingue, qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas vite, déjà, mais imagine en anglais. Fait que là, je me revirais, puis là, je suis... Fait que j'en ai perdu un peu des bouts, là, mais il était d'une inspiration sans borne. Tu sais, Guillaume Dulude, c'est quelqu'un qui se distingue aussi par son courage, sa détermination et la quête de vérité profonde. Au-delà de ce qu'on voudrait que ce soit, lui, il va chercher la vérité, puis garde une vérité qui est adaptable aussi dans le concret de l'individu, donc mm-hmm. pour faire des choix, pour faire augmenter son niveau d'énergie, pour se positionner à chaque instant. T'sais, parce qu'on a le choix de bien des affaires qu'on ignore. On pense qu'on subit, mais dans le fond, on se fait subir par ignorance souvent. Donc, lui, il amène à la conscience. Puis pour amener des gens comme Chris Hadfield, Serena Williams, on s'entend-tu là qu'il fallait qu'il y ait un vecteur béton pour convaincre ces personnes-là?
Tout ce monde-là, ben oui.
Convaincre, mais pas... Là, j'aime pas le mot parce que convaincre, c'est comme un peu... Ah oui, down. T'sais, c'est comme persuader ces personnes-là qu'ils ont... leur place à cet endroit-là, à cet instant-là. Puis Anthony Cavanagh, il en fait partie. Là, c'est un des grands humoristes aussi
ouais.
là, de toutes les décennies là, confondues. Là, il s'est démarqué aussi. C'est des gens là, qui dépassent les... sais, les affaires à un moment donné où on s'enfarge là, comme des fleurs du tapis, là. Les autres, là, on garde, on va trouver des solutions, on va y aller dans l'action, on se responsabilise, on prend les choses en main. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? T'sais, c'est plus c'est la faute de qui, qu'est-ce qui est arrivé? C'est un autre mindset, là. On n'est plus dans de la victimisation, là. On est dans comment je vais entreprendre ma vie, puis quand ça va m'arriver, t'sais, comme Chris Hadfield, là, quand ça va m'arriver, là, puis que je vais décoller, là, je vais être prêt. Tu sais, il avait le rêve d'être astronaute, là, ouais, depuis qu'il était tout petit, là. Tu sais, il s'est pas dit, tu sais, syndrome d'imposteur.
Je sais pas s'il y avait, j'ai pas demandé, mais y avait-tu des gens autour qui faisaient, tu sais, qui essayaient de l'aider en disant, ouais, mais Chris, tu sais, il y en a pas beaucoup d'astronautes, tu devrais choisir un autre domaine d'emploi.
Ouais, ouais, ouais. C'est sûr que je pense qu'il y avait une prédisposition à s'émanciper, ouais, mais il y a l'environnement, puis oui, la famille, puis les parents, puis comment les gens grandissent dans leur environnement familial principal, de ouais, base, ça n'en fait quand même partie pour beaucoup. Tu sais, Serena Williams, là, son père, là, tu sais, il l'a coaché, là, tu vas être la championne de tennis, mm-hmm, là, il l'a préparé depuis qu'elle est tout petite, puis il l'a préparé en entrevue, là, puis fait que quand c'est arrivé, les personnes y étaient prêtes à accueillir la suite pour assurer leur rôle, assurer leur incarnation. Moi, j'ai trouvé ça là, très inspirant. Puis je me suis dit, et moi, qu'est-ce qui me donne envie, t'sais, de dire un jour, quelqu'un va m'arriver avec une proposition, genre Yannick Marceau, tu vas faire une collaboratrice à Boulevard 101. Puis je me dis, et là, je vais être prête.
Ben oui.
Je vais être prête.
Puis là, t'es là.
Ben oui, mais je me suis préparée avant de venir te voir.
C'est vrai?
Ben, ça fait 3 ans que je me prépare à faire des chroniques hebdomadaires. Ben oui, j'ai...
Tout ça pour moi! Merci!
Tout ça pour toi!
OK, mais là, il y a eu... il y a Mélanie Raté-Bizaillon, qui est une artiste, qui a créé Mélou, qui a créé La Petite Ratée. Est-ce qu'un jour, on va avoir une Mélanie Raté-Bizaillon qui va faire des conférences?
Bien, j'en ai fait une première!
Je sais.
Oui, oui, j'ai envie de partager plein de choses avec beaucoup de gens. Ouais.
C'est vers là que tu te diriges.
Parce que j'aime les enfants, j'aime les grands,